Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Deuxième volet de votre série consacrez-vous aux relations entre la France et l'Allemagne. La France a joué, malgré elle, un rôle capital dans l'aspiration des Allemands à l'unité nationale, Brice.
Oui, parce que l'intelligentsia allemande a été éblouie par les prouesses des armées révolutionnaires d'abord, puis napoléoniennes. Bien des esprits en Allemagne ont compris que 1789 et ses suites marquaient un tournant décisif dans l'histoire européenne, celle de l'entrée dans la modernité. Ils ont été nombreux à placer de grands espoirs dans un bouleversement qui semblait apporter avec la raison et l'État-nation, l'émancipation et le progrès. Alors que par bien des aspects, les Allemagnes étaient restées des sociétés féodales. Le soir de la bataille de Valmy en 1792, Goethe a déclaré « De ce lieu et de ce jour date une nouvelle époque de l'histoire du monde et vous pourrez dire « j'y étais ». Et Hegel, en train d'achever sa phénoménologie de l'esprit à Iéna en 1806, lorsque Napoléon Ier y écrasa l'armée prussienne, témoigne « J'ai vu l'empereur, cette âme du monde, traverser la ville à cheval. C'est vraiment un sentiment étrange de voir une pareille personnalité concentrée en un point unique alors que sa pensée rayonne sur le monde entier. » À ses penseurs, Napoléon apparaissait en effet comme une incarnation du despotisme éclairé et la France, comme le bras armé des Lumières de la Aufklärung. L'estime d'ailleurs était réciproque, puisqu'en marge de l'entrevue d'Erfurt en 1808, au cours de laquelle l'empereur des Français avait traité les rois, roitelets et princes allemands en moins que rien, Napoléon Ier demanda à se faire présenter deux des plus grands écrivains d'Allemagne, qui étaient Goethe et Wieland, et il les fit chevaliers de la Légion d'honneur.
Et à la même époque, Brice, Madame de Staël crée le mythe de l'Allemagne, patrie des rêveurs et des poètes, des penseurs profonds.
Oui, mais c'est pour mieux fustiger la frivolité des Français, leur superficialité. Et son livre « De l'Allemagne » est autant une enquête sur le renouveau apporté par les Allemands, comme elle dit, ces véritables Grecs de l'Europe moderne, qu'une mise en cause de la fausse modernité qu'incarne à ses yeux Napoléon Bonaparte, ce premier consul qui lui interdit de séjourner à Paris. Elle arrivait en Allemagne, l'âme frémissante de colère contre la France du consulat qui s'était livré au vertige de la conquête. À cette nation oublieuse, elle voulut donner une grande leçon et un grand exemple, et ce fut le peuple allemand qu'elle choisit pour cela. Voilà ce qu'écrira beaucoup plus tard le philosophe Helm-Marie Caro. Car le comportement des Français, réorganisant et pillant à leur guise les Allemagnes dont ils avaient redessiné la carte pour s'y tailler leur propre domaine, ne pouvait manquer de provoquer à la longue des réactions exaspérées. En jetant à bas le Saint-Empire, même s'il ne représentait plus guère qu'un symbole, Napoléon donna malgré lui naissance à des aspirations à l'indépendance et à la fierté nationale. Dès le consulat, vous avez un Joseph von Görös, un intellectuel de Koblenz favorable à la Révolution française, qui était venu à Paris plaider la cause de l'indépendance des provinces rhénanes, et il était reparti bredouillé et désabusé. Bonaparte avait l'intention d'annexer ces provinces allemandes. Rentré chez lui, voilà ce qu'écrit von Görös. La France s'est ravalée au rang des autres États et sa révolution a perdu son caractère universel et cosmopolite qui en faisait le bien commun de tous les peuples. Fin de citation. Dès cette époque, le mythe d'une France solidaire des aspirations des peuples à secouer le joug des entraves au progrès commençait déjà à s'effriter. Et l'occupation française des Allemagnes provoqua contre elle une aspiration très nouvelle à l'unité, inspirée en partie du modèle français mais dirigée contre la France. L'historien et poète nationaliste Ernst Moritz Arndt écrivit « La cause première de tous nos maux, c'est le défaut d'unité. L'unité se fait par réaction contre une conquête, les Maures ont fait contre eux l'unité de l'Espagne et les Anglais soldats de la France, ainsi les Français feront la nôtre. » Mais c'est Fichte qui lui donna la forme d'un programme intellectuel et politique précis à Berlin, lors de ses fameux 14 discours à la nation allemande qu'il a prononcé du 13 décembre 1807 au 20 mars 1808. Et le plus étonnant dans cette affaire, c'est que la capitale de la Prusse était alors occupée par une armée française qui venait d'écraser les Prussiens à Iéna. Constamment, en effet, le philosophe Fichte oppose l'étranger et ce qu'il appelle sa mécanique sociale aux Allemands, peuple authentique, parce qu'ils ont su conserver une langue qui n'est pas empruntée comme les langues latines. Et bien sûr, l'étranger dans sa voix désigne la France, qu'il exhorte ses compatriotes à cesser d'imiter, car sa voix est, dit-il, déjà éteinte. les Français ne croient plus eux-mêmes à leur fameuse lumière. L'Allemand authentique est disponible pour la liberté. Il y aura été éveillé par sa philosophie qui lui indique ce à quoi il est destiné. Eh bien, c'est fort de ces idées que la Prusse, de son côté, réussit un effort de modernisation qui, contrairement à ce qu'avaient tenté d'autres États allemands à l'époque, s'écartait largement du modèle français. Effort couronné de succès, puisque en octobre 1813, la bataille de Leipzig, dite Völkerschlacht, bataille des nations ou combat des peuples, est la plus grande défaite de Napoléon Bonaparte. Les Autrichiens, les Russes, les Suédois et même les Saxons se rangent aux côtés des Prussiens. L'Allemagne napoléonienne, oui, est morte. Le 31 mars 1814, c'est Blücher qui rentre dans Paris.
Merci beaucoup Brice Couturier donc pour cette chronique. Je rappellerai donc cette série consacrée aux relations franco-allemandes, inspirée par la sortie de ce livre « Ennemis héréditaires, un dialogue franco-allemand » d'Hélène Mière de la Croix et Andreas Wirsching, qui est paru chez Fayard. On continuera demain, Brice.